France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
En ce 31 décembre, et alors que pour beaucoup, pour certains, les plus chanceux, un dîner festif se prépare, une question ce soir, d'où vient le vin? La question a longtemps divisé les scientifiques avant d'assurer que cette boisson millénaire venait bien d'Orient, des montagnes du Caucase jusqu'à celle de la Perse de Cyrus. Alors, suivre le voyage du vin, c'est suivre l'histoire d'une transmission des terres orientales vers celle de l'Ouest où elles s'épanouissent aujourd'hui. Suivre le voyage du vin, c'est aussi voir la fragilité de cette culture et le risque qu'en arrachant des pieds de vigne, on se coupe d'une histoire millénaire. Car dans son livre, notre invité, Laure Gasparotto, relie la civilisation orientale, d'où le vin est originaire, mais largement interdit, à la civilisation occidentale qui commence à s'en détacher. Alors d'où vient le vin? Le vin est-il un marqueur civilisationnel en danger? Vous l'aurez compris, une invitée ce soir, Laure Gasparotto. Bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes historienne et journaliste spécialiste du vin pour le journal Le Monde et vous venez de faire paraître aux éditions Grasset « Quand l'Orient inventait le vin ». Merci d'être avec nous ce soir dans « Question du soir ».
La naissance du vin, les premiers vins dans le sens de viticulture, dans le sens propre du terme, elle est à peu près entre moins 5 et moins 6 000 ans, moins 3 000 à moins 4 000 ans avant Jésus-Christ. À ce moment-là, elle se crée des cités-états entre le Tigre et l'Euphrate. On est dans le territoire de l'Irak. C'est la naissance de l'agriculture, la naissance de l'écriture. C'est raconté par exemple dans l'épopée de Gilgamesh, premier conte, moins 4 000 ans. Et en fait, c'est le véritable demande, la demande du vin et qu'en tant qu'objet culturel, naît à ce moment-là. Les gens entre Tigre et l'Euphrate sont riches, ils ont l'agriculture, ils demandent du vin. Mais quand il fait 50 degrés dans ce paysage-là, la vigne ne pousse pas bien, ne marche pas, c'est aride et c'est trop chaud. Et donc, ils vont aller chercher le vin dans différentes zones plus hautes, montagneuses, qui vont devenir véritablement des régions viticoles comme l'est aujourd'hui l'Aquitaine. Ces régions-là, c'est l'Anatolie, la Géorgie et le Zagros, en fait, c'est en Iran, c'est une province montagneuse dans laquelle on fabrique du vin. D'ailleurs, Gilgamesh boit du vin de Zagros, c'est littéralement écrit.
La voix de Masrour Makarémi, un viticulteur qui a planté de la Syrah de Shiraz à Bergerac, un extrait de la chaîne Tout le vin et plus. Laure Gasparotto, pourquoi c'est si compliqué, pourquoi cela fut si compliqué plus exactement, de comprendre d'où le vin venait?
Parce qu'en fait, le vin, enfin la viticulture, la plante est une plante qui se croise sans arrêt. Donc, on ne connaît plus aujourd'hui les parents des cépages actuels. Et donc, c'est une vraie recherche. Et on en sait beaucoup plus depuis très très peu de temps, puisque c'est une recherche parue au mois de février 2023, une recherche des résultats de recherche internationale regroupant des résultats de laboratoire des États-Unis, de Chine aussi, d'Europe, qui ont vraiment repoussé l'origine de la vigne à 11 500 ans avant Jésus-Christ. Alors, l'origine de la vigne n'est pas l'origine du vin, puisqu'on ne sait pas exactement à partir de quand on a commencé à vinifier. Et ça, c'est l'archéologie qui nous le dit, sans doute, en effet, 7 ou 8 000 ans, oui.
Avant de se plonger dans cette publication de 2023, je vous cite Laure Gasparotto, vous écrivez « Grâce à la glottochronologie, cette technique qui permet de calculer la distance temporelle entre les langues et de reconstituer l'arbre généalogique des langues indo-européennes, on a pu démontrer que le mot « vin » est bien antérieur à la divergence des langues européennes. » Expliquez-nous.
Ça c'est vraiment fantastique. C'est que même avant que l'archéologie nous donne la réponse de l'origine du vin, le langage nous l'indiquait.
Le langage précède l'archéologie.
Exactement, parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, on véhicule des mots qui sont vieux. Et le mot vin, en fait, est un des plus vieux du monde. Et ce vin, si on regarde, c'est vin, V-I-N, c'est le 1, en fait, c'est l'unité. Et cette racine, on la retrouve dans toutes les langues. Toutes les langues du monde.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle la naissance du vin pour commencer? Est-ce que c'est la première vigne? Est-ce que c'est la domestication de la vigne? Est-ce que c'est la vinification, la consommation du vin? Là encore, donnez-nous quelques informations.
Écoutez, ce qu'on appelle l'invention du vin, c'est plutôt la fermentation en fait des raisins. Et c'est quand des archéologues découvrent des pépins de raisins qui ont fermenté, là on se dit il y a eu du vin. Et à partir du moment où il y a eu du vin, c'est qu'il y a eu une sédentarisation de la population, puisque la vigne, c'est une plante pérenne, contrairement aux céréales. Donc on sait que quand on trouve des pépins de raisins fermentés, c'est qu'il y a vraiment une sédentarisation, donc une culture du vin et de la vigne.
L'épicentre, où est-ce qu'on l'identifie ? Alors, vous nous indiquez, dans cet ouvrage qui vient de paraître chez Grasset, quand l'Orient inventait le vin, que c'est au Caucase que tout se joue au départ.
Alors, c'est dans le Caucase et, en fait, il y a deux foyers, donc il y a le Caucase et plus précisément aussi vers Shiraz, qui est aujourd'hui en Iran. Mm-hmm. Ces deux sites sont concomitants et, en réalité, appartenaient à l'Empire Perse il y a 5000 ans. L'Empire Perse était l'empire le plus important du monde et c'est cet empire qui a créé les premiers vins de l'histoire. Alors, aujourd'hui, on parle toujours de la Géorgie, de l'Arménie, du Caucase, parce que c'est le territoire où, depuis que le vin est né, il n'a jamais été éradiqué. C'est en fait le lieu où, depuis son origine, le vin existe. Alors qu'on le sait aujourd'hui, en Iran, le vin, avec l'islam, a disparu.
Et à ce sujet, vous évoquez dans votre ouvrage très largement la Géorgie, cette culture au sens culturel du vin qui demeure, qui fait partie intégrante du quotidien des Géorgiens.
Oui, le vin fait partie de leur culture. En effet, tout le monde fait du vin dans son garage. J'y suis allée il y a 2 ans pour un reportage. J'ai rencontré beaucoup de jeunes gens qui ont goûté leur premier verre de vin avec leur grand-père qui avait quelques ceps dans le jardin. Et en fait, boire du vin à table fait partie de la nourriture, comme le pain. Aujourd'hui, nous, en France, par exemple, ou dans d'autres pays européens, on a perdu.
Si on continue à faire de l'histoire, grâce à vous, Laure Gasparotto, à quoi ressemble une vigne moins 4000, moins 5000, moins 6000 ans avant Jésus-Christ ? On a évidemment cette image d'épinal de la vigne qui traverse les coteaux et les paysages français. À quoi ressemble une vigne à cette époque-là ?
Alors là, je serais bien capable de vous le dire, surtout que tout dépend du climat.
Tu parles de lianes sauvages et forestières, voilà. Bien plus que de plants classiques.
C'est ça, et en effet, sans doute, dans l'Empire perse, c'était des lianes qui entouraient d'autres arbres, des fruitiers par exemple. Le fait que la vigne soit en monoculture, comme on le voit aujourd'hui, n'était pas du tout comme ça. En fait, c'est comme le café, les caféiers sont avec d'autres plantes, des cohabitations. Et on pense que la vigne cohabitait avec d'autres arbres et que le raisin se ramassait comme d'autres petits fruits dans les forêts, en fait. L'origine du vin, c'est comme celle du café. Hein, ce sont des lianes. Elles ne sont pas des domestications. Avant que la vigne soit étêtée, coupée, comme on le fait aujourd'hui, ça, il faut des millénaires avant d'y arriver. Et il faut arriver jusqu'aux cisterciens pour que des agronomes du Moyen-Âge donnent d'autres gestes à une autre culture.
Je remonte encore un peu le temps avec vous. Si l'on s'intéresse cette fois-ci aux cépages, les grands cépages que l'on connaît aujourd'hui, viennent-ils également du Caucase ou d'une autre région ?
Alors ça, c'est intéressant parce que on sait que aujourd'hui la Géorgie a plus de 500 cépages autochtones, mais ces 500 cépages sont restés en Géorgie. Ce sont pas eux qui ont voyagé. En revanche, ceux de l'autre foyer dont je parlais, qui vient plutôt plus précisément d'Iran, ça, ce sont les cépages qui ont voyagé. L'Iran était sur la route de la soie. Les voyageurs allaient jusqu'en Chine et passaient par l'Iran, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Et ce sont ces cépages qui ont voyagé. Alors, est-ce que la Syrah provient vraiment de Shiraz ? On n'en a pas vraiment la preuve. Mais ce qu'on sait, c'est que les parents des cépages qu'on cultive aujourd'hui proviennent d'Iran.
D'où vous vient cet attrait singulier, intime, pour l'ancienne culture viticole de la Perse, là aussi, qui est une espèce de fil rouge dans le dernier livre que vous signez ?
Alors ça, c'est vraiment une découverte grâce à un verre de vin que j'ai reçu totalement par hasard, justement de Masrour Makarimi, dont on a entendu la voix tout à l'heure, qui est pas du tout vigneron, mais qui est médecin orthodontiste à Bergerac, et en fait réfugié politique iranien. Et quelque part, il a voulu, mais c'était peut-être pas tout à fait conscient, mais planter de la Syrah sur 2 hectares pour retrouver une veine de son pays perdu. Et il m'a envoyé sa bouteille qui s'appelle Cyrus. Et il s'était écrit sur cette bouteille vin perse de Bergerac, ce qui m'a beaucoup intriguée. Et justement, donc, je commençais déjà à m'intéresser à l'origine orientale du vin, parce que on pense toujours que le vin vient des Romains ou des Grecs. Et en effet, ce sont les Romains qui ont apporté le vignoble en Gaule. Mais avant les Romains, ça arrivait c'est ce que vous disiez tout à l'heure, encore plus à l'est. Et avant ça, donc des Perses. Sachant que l'Empire perse allait même jusqu'en Égypte. C'était vraiment immense. Et donc, c'est ce verre de vin qui m'a vraiment éclairé sur cette origine lointaine. Et j'ai voulu explorer cette origine géographique que j'ignorais et qu'on ignore parce que l'Iran lui-même ignore ce qu'il a apporté à l'humanité.
Alors, intéressons-nous à cette histoire. Comment la viticulture surgit-elle, naît-elle en Iran, justement ?
Alors, en Iran, elle fait partie du luxe, en fait. L'Empire perse était un empire très raffiné, aussi bien au niveau de l'architecture, de la musique, de la peinture, et le vin est un luxe. Et c'est une esthétique gustative qu'on ignore aujourd'hui. Le goût n'est pas poussé aussi loin de nos jours comme il a pu l'être. Et ce qui me fait penser ça aussi, c'est la finesse des objets qui nous restent des temps anciens perses. Quand on voit la finesse, le raffinement, le travail, la préciosité aussi des matériaux, je me dis que forcément, le contenant correspondait à un contenu qui était aussi luxueux.
Ce qu'il faut aussi préciser, c'est le rapport de l'islam au vin et à la viticulture, le rapport de l'islam à la consommation de vin et à la production ensuite.
Alors en fait, donc l'Empire perse jusqu'à l'arrivée de l'islam au 7e siècle était un pays buveur de vin. Hein. Après l'arrivée de l'islam au 7e siècle, ce sont les Arméniens qui sont arrivés en Iran et c'était les Arméniens qui continuaient à travailler la vigne. Donc il y a eu pendant plusieurs siècles une tolérance de l'islam par rapport à la culture du vin. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui des témoignages de poètes comme Omar Khayyam ou comme Rumi plus tard, hein, au 11e, 12e, 13e siècle. L'islam a été tolérant à un moment, par rapport à la consommation de vin. Jusqu'à, on le sait aujourd'hui, c'est carrément rien, aucun alcool. Même Masrour Makarimi a voulu essayer d'envoyer sa bouteille de vin à quelqu'un de sa famille en Iran. La bouteille, évidemment, n'a pas passé la douane, hein, même vide, parce qu'il voulait juste faire des photos de cette bouteille devant des monuments emblématiques de son pays. Ça n'a pas fonctionné.
Écoutons justement des vers d'Omar Khayyam, lus sur France Culture dans l'instant de poésie, par Pierre Beau, Laurent Dols et Guillaume Marquet.
Chaque vœu de repentir, nous le rompons encore et refermons sur nous la porte de bon renom. Ne me blâme pas si j'agis comme un exalté, car une fois de plus, je suis ivre du vin de l'amour.
Quand je serai terrassé sous les pieds du destin et que l'espoir de vivre sera déraciné de mon cœur, veille à faire une coupe avec ma poussière. Ainsi, rempli de vin, je revivrai, peut-être.
Mon cœur ne sait plus distinguer entre l'appât et le piège. Un avis me pousse vers la mosquée, l'autre vers la coupe. Pourtant, le vin, l'aimé et moi, nous sommes mieux cuits dans une taverne que crus dans un monastère.
C'est le matin, Humons un instant le vin couleur de rose et brisons encore une fois sur la pierre ce vase de bonne renommée et d'honneur. Cessons de haleter vers ce qui fut longtemps notre espoir et jouons avec les longues boucles et le manche sculpté du luth.
Qu'est-ce que ces poèmes, au-delà même l'œuvre d'Omar Rayam, nous enseignent quant au rapport des Perses au vin et même à ce que le vin représente comme boisson et comme objet culturel à part entière ?
En tout cas, je trouve la traduction est magnifique et on a vraiment cette notion de plaisir que Omar Rayam véhicule. Et aussi, ce qui me fascine, c'est la proximité des hommes entre eux. Quand j'entends ça, j'ai pas l'impression que ce sont des vers du XIIe siècle. C'est d'une universalité incroyable. Et grâce au vin, on est un. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a vraiment cette unité, je trouve, grâce à ces vers. Et ce que je trouve fascinant aussi, quand j'écoute ça, c'est que aujourd'hui, Omar Rayam n'est pas condamné dans la littérature islamique, même des mollahs actuels. Le mot vin n'est pas banni des textes comme ceux de Hafez, par exemple, dans le Divan. Il y a toujours ce mot vin qui est présent et qui signifie. Les mollahs n'ont pas pu enlever le mot vin tellement il est présent dans la civilisation, mais quel sens lui donner aujourd'hui ? En tout cas, le sens que l'islam lui donne, et la raison pour laquelle il peut toujours être là, c'est que le vin représente le plaisir dans les cieux. C'est-à-dire que le vin ne peut pas être un plaisir sur la terre, c'est forcément le plaisir du divin, et au-delà même du plaisir, ça correspond à l'amour du divin.
Mais comment se fait-il, malgré tout ce que vous décrivez, Laure Gasparotto, que cette histoire ait été largement oubliée, ce rapport entre l'Orient, certains pays, je pense notamment à l'Iran que vous décrivez, le rapport au vin, à l'histoire viticole, c'est une chose qui a été pratiquement effacée de notre mémoire et de notre culture contemporaine.
Oui, c'est étonnant. Et pourtant, quand je rencontre aujourd'hui des Iraniens, ils ont en eux cette culture. Et si Masrour Makarimi a choisi les collines de Bergerac, c'est parce que elle lui rappelait les collines de son enfance. Il est né à Shiraz et il m'a dit que il a une quarantaine d'années aujourd'hui, mais il y a une trentaine d'années, sur les collines de Shiraz, il restait encore des vestiges de vignes. Elles sont abandonnées aujourd'hui, mais les Iraniens ont vraiment ça en eux, dans leur culture, au point que je sais qu'on peut en boire de manière clandestine, hein, et que ce soit aussi en Afghanistan, il y a une espèce de clandestinité encore du vin, il y a d'ailleurs un vigneron afghan aujourd'hui qui a créé son propre domaine en Alsace, il est réfugié politique, avec un goût du vin sucré comme on pouvait en trouver en Iran. Et quant à Masrour Makarimi, il m'a raconté que lui, sa découverte du vin dans son enfance, c'était lié à l'histoire de son oncle qui allait faire les maraîchers à côté de chez lui et qui allait acheter 2 poires et 5 kilos de raisins à l'un, le rapporter à sa femme. Il laissait les poires à sa femme, il gardait les grappes pour le fond du jardin. Il retournait faire des courses et il rachetait 5 kilos de raisins, 3 bananes et je ne sais quel autre fruit. Et qu'il rentrait chez lui, il déposait à sa femme les fruits. Et comme ça, il accumulait une dizaine de kilos de raisins au fond du jardin pour se faire son vin. Donc il y a quelque chose qui a perduré malgré l'interdiction. Il y a une recherche du goût, d'une saveur, d'un lieu qui a perduré. Et en fait, ce qui me séduit aussi avec l'histoire de Masrour Makarimi, c'est que même si il est très loin de son pays, avec ses 2 hectares de Syrah ici, et il parle à la diaspora iranienne. Son vin, il le vend aujourd'hui beaucoup à Londres, beaucoup aux États-Unis, à une diaspora qui retrouve un lieu perdu grâce à ce vin. Et c'est comme si c'est un territoire imaginaire qu'ils ont retrouvé ensemble. Donc ça signifie que si un jour on a de nouveau l'autorisation de planter des vignes en Iran, tout le monde est prêt. Et au point même que Masrour Makarimi là est en train de faire une collection de cépages, un conservatoire de cépages iraniens dans son jardin, pour justement pouvoir un jour les ramener peut-être en Iran, si c'est possible. Peut-être que ce sera pas lui, mais son enfant ou d'autres. Mais il garde précieusement ces cépages pour les ramener un jour dans leur lieu d'origine.
Mais je tire le fil de ce que vous dites, Laure Gasparotto, ce lien entre la viticulture, le vin d'un côté, et les pays, certains pays où la culture musulmane est importante de l'autre. On oublie encore que dans les années 60, le premier pays producteur de vin, c'est l'Algérie. Alors en lien bien sûr avec la France, mais cette histoire-là aussi entre l'Algérie et le vin, on a même en France, par conséquent, tendance à l'oublier.
C'est vrai, et pourtant l'Algérie était française hein, depuis le milieu du 19e siècle pendant presque 100 ans. Et en fait, ça a été très très utile à la France parce que ça correspondait au moment du phylloxéra, c'est-à-dire au moment où le vignoble disparaissait en métropole.
C'est la grande grande maladie du vin, notamment à la fin du 19e siècle.
Exactement, c'est un microbe, enfin un insecte qui est toujours présent dans les sols. D'ailleurs, on a trouvé une solution aujourd'hui, mais à ce moment-là, le vin au 19e siècle faisait partie de l'alimentation et aujourd'hui, on se rend plus du tout compte, en fait, de cette civilisation du vin. Mais ne plus avoir de vin à table, ne plus avoir du vin pour même soigner, hein, puisque certains médecins pouvaient recommander un verre de vin parce qu'une femme avait perdu trop de sang pour son accouchement. On n'imagine plus ce genre de choses. Mais en tout cas, en effet, l'Algérie était un énorme vignoble, et pas un vignoble que quantitatif, mais aussi qualitatif. Les plaines de la Mitidja étaient connues pour la qualité de leur vin. Et en effet, la France, quand elle est partie au début des années 60, donc la première chose que les Algériens ont fait, c'était arracher la vigne qui ne correspond pas à leur culture.
Et dans vos voyages, dans vos récents voyages, cette fois-ci au Maroc, vous avez rencontré des Marocains qui dynamisaient une culture viticole, qui développaient justement du vin au Maroc.
Ben, parmi les pays où l'islam est puissant, le Maroc est complètement à part et assume vraiment sa culture du vin. Mais parce qu'aussi c'est un pays très fortement touristique. Le Maroc cherche à continuer d'attirer des touristes. Il y a énormément de restaurants qui ouvrent une hôtellerie de luxe et qui doit correspondre à des cartes des vins internationales. Et en effet, au Maroc, on trouve de très 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 bons vins. Récemment, j'ai fait un peu une tournée au Maroc pour m'en rendre compte, et je connais aussi des Français qui sont allés au Maroc apporter leur savoir-faire et faire. Il y a un vin qui s'appelle Tandem, par exemple, qui dit bien son nom, Tandem en franco-marocain, où les Français peuvent apporter aussi un certain savoir-faire. Mais le Maroc est un pays est devenu un grand pays de vin. Oui.
Vous diriez qu'aujourd'hui encore, le vin constitue entre l'Orient et l'Occident un pont important, qu'il permet des échanges impossibles sans lui, qu'il est une voie de liaison entre ces deux espaces caricaturaux, certes, l'Orient et l'Occident, mais tout de même entre différents pays de l'espace eurasien.
Oui, c'est une veine importante. Je pense à Atik Rahimi, qui est un auteur afghan qui a eu le prix Goncourt en France. Et qui se sert du verre de vin comme d'un drapeau quand il fait une conférence, pour dire j'ai le droit d'en boire, j'en bois et je suis libre. C'est très symbolique, le vin. C'est pas juste un verre qu'on boit, c'est on boit de la culture, on boit de l'échange, on boit du symbole. C'est la raison pour laquelle la démarche de Masrour Makarimi comme réfugié iranien en France m'a vraiment vraiment beaucoup touché, parce qu'il a aussi perdu sa mère en prison, assassiné par les mollahs, et quelque part il a perdu sa mère, enfin, elle lui a été arrachée quand il avait 5 ans. Et c'est aussi vouloir retrouver un peu le sang de son pays. Et d'ailleurs, il ne fait que du rouge. C'est très symbolique aussi, parce qu'il pourrait, en plus à Bergerac, il y a des très bons vins, il y a des Montbazillac, enfin, ce sont des vins blancs un peu sucrés qui pourraient faire partie de sa production, mais il n'a choisi le rouge que parce que aussi c'est une symbolique du sang. Enfin, c'est dans la chrétienté, le vin rouge est le sang du Christ. Et la chrétienté, d'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup inspiré de la culture perse. Quand on parle, par exemple, de paradis, le paradis est un mot perse. C'est pas un mot arabe, c'est un mot qui est perse. Le paradis, donc chrétien, vient déjà de l'Orient.
Le vin, donc, comme une leçon d'histoire et de géographie, grâce à vous, Laure Gaspard Rotto, historienne, journaliste spécialiste du vin, journaliste au journal Le Monde, et vous signez chez Grasset cet ouvrage passionnant « Quand l'Orient inventait le vin ». Merci également à toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission, Bruno Barada, Rotti Eken, Bertie Bourdon. À la réalisation, c'était Anna Olvec. We'll be right back.